Document. Une autre lecture de la propagande dans la guerre. Les dessinateurs d'albums pour enfants, les journalistes, les écrivains, les cinéastes, les musiciens, les artistes qui ont réalisé les affiches, les cartes postales ou encore les illustrations des livres ou des journaux, les instituteurs dans leurs classes, les professeurs dans les lycées, les intellectuels et les universitaires, les prêtres dans les églises, les pasteurs dans les temples, les rabbins dans les synagogues, et d'une manière générale, les élites cultivées, celles de l'arrière comme de l'avant, tous ou presque tous, ont participé, d'une manière ou d'une autre, à une propagande de guerre multiforme, décentralisée, dans une très large mesure incontrôlable, en tout cas plus souvent spontanée qu'organisée ou imposée. Il faut décidément poser la question en termes provocateurs. Et si le discours de propagande, entendu au sens le plus large, n'avait fait que traduire, que trahir, au moins pour une part, les représentations dominantes du temps de guerre. L'idée heurte bon nombre de nos convictions parmi les plus ancrées, et pourtant, la logique même du conflit indique que la mobilisation des opinions entre 1914 et 1918 n'est pas liée, pour l'essentiel, à la contrainte, à la censure, à l'imposition autoritaire de schémas d'interprétation. Non. Si le consensus des sociétés en guerre fut si efficace et fut finalement si durable malgré les souffrances endurées, c'est parce que, à la racine, il fut porté avant tout par une mobilisation largement spontanée. Stéphane Audouin Rousseau, Annette Becker, 14-18, Retrouver la guerre. Gallimard, Folio Histoire, 2000.